Voilà. Donc, on a beaucoup parlé de halal et de nourriture jusqu'à présent. Mais moi, je vais un peu élargir le champ. Je vais vous parler de mariage et finalement des relations hommes-femmes, des relations sexuelles. Un de mes enquêtés à qui je demandais « Alors, respectes-tu le halal ?» Il m'avait répondu « Le halal, c'est-à-dire le halal entre moi et ma femme, et tout ça ou la bouffe halal ?» Donc tout ça pour vous dire que le halal, donc, ce n'est plus que la nourriture, c'est aussi le champ du mariage et des relations sexuelles. Puisque finalement, pour les descendants de migrants d'origine maghrébine, turque et africaine, ces dernières années, cette notion de halal va connaître une visibilité nouvelle en imprégnant à la fois les discours et les pratiques. Et finalement, à travers cette nouvelle visibilité et un peu cette extension à d'autres champs que la nourriture, on va revenir à la signification première du mot halal, c'est-à-dire ça renvoie au licite, ça vient s'opposer au haram, ce qui est interdit, et donc en matière de sexualité, ce qui est interdit, c'est l'état de zina, donc la sexualité hors mariage. Dans cette communication, je vais vous présenter la façon dont se construit une sexualité autorisée par le groupe d'origine, au travers la nouvelle importance qu'a pris la référence au halal depuis les années 90, tant par rapport au cadre invoqué par les individus que par rapport au type de conjoint choisi. D'un registre qui mêle religieux, halal et culturel, dans les années 80, le NIF, les individus tendent aujourd'hui de plus en plus à invoquer le seul référent religieux. Mais la dynamique à l'œuvre est-elle uniquement religieuse? De quoi finalement le halal est-il le nom aujourd'hui? Ce que je vais vous exposer repose en fait sur deux enquêtes que j'avais pu mener. Une première dans le cadre de ma thèse, où j'avais enquêté des étudiants français de quartiers populaires d'origine maghrébine, turque et africaine. Mais là, en fait, on se focalise principalement sur ceux d'origine maghrébine. Et puis la seconde enquête, c'était une grosse monographie sur Clichy-sous-Bois, et où on avait interviewé une centaine d'habitants, français ou étrangers. Mais là, de cet échantillon-là, je n'ai retenu que les Français d'origine maghrébine, turque et africaine, pour qu'il y ait une cohérence un peu entre les deux échantillons. Donc l'objectif, naturellement, c'était pas du tout d'avoir un échantillon représentatif statistiquement, c'était plus d'analyser un peu les grilles de compréhension des acteurs. Donc voilà. Le papier que je veux vous présenter, c'est une version vraiment contractée d'un papier beaucoup plus ambitieux que j'avais, mais comme on a 20 minutes, j'ai essayé d'être rapide. Et du coup, peut-être je serai un peu générale, mais je suis sûre que par les questions que vous aurez, on pourra repréciser un certain nombre de choses. Alors, il y a deux grands axes dans ce papier. D'abord, le halal comme cadre de référence des individus pour ces questions de relations sexuelles et de mariage. Pendant longtemps, notamment dans les familles maghrébines, la notion d'honneur, de NIF, qui relève, elle, du registre culturel, était mobilisée, y compris dans le contexte français, pour réguler les relations sexuelles entre hommes et femmes. Reposant sur la virginité des filles jusqu'au jour du mariage, il est lié au lignage, à la famille, car il permet de perpétuer le nom de la famille dans un cadre légitime, le mariage. Mais aujourd'hui, les individus tendent à lui substituer la notion de halal, pour désigner le cadre dans lequel s'inscrit pour eux la seule sexualité légitime. Cependant, en fait, quand on regarde le discours des individus, tant des filles que des garçons, on va se rendre compte que finalement, on a peut-être changé de référent, le mot qu'on utilise est peut-être plus le même, mais dans les pratiques, finalement, est-ce que ça change quelque chose? Pas vraiment. Ça repose toujours, ce qui est valorisé finalement, c'est toujours la faible disponibilité sexuelle des filles, ou l'absence même de disponibilité sexuelle des filles en dehors du cadre donc du mariage halal, pour le coup. Il y a quand même une petite chose supplémentaire, c'est que, alors là c'était un enquêté, un homme donc qui me soulignait cela, c'est que si en fait l'honneur repose principalement sur les épaules des femmes, et du coup c'est la sexualité des femmes qui est contrôlée principalement à travers ça, pour, dans le cadre du halal, finalement, on retrouve une espèce d'égalité, puisque la zina, finalement, c'est bien ni pour les hommes ni pour les femmes. Donc, la sexualité hors mariage, que ce soit avant le mariage ou en parallèle du mariage, est quelque chose considéré comme pas bien, pas légitime. Mais en fait, ce qui était intéressant pour moi, c'est que finalement, au-delà donc, de cette petite parenthèse, ce qui est intéressant, c'est finalement qu'au-delà de la pratique, c'est le changement de catégorie référentielle entre culturel et religieux qui peut interpeller. Et à mon avis, c'est aussi à mettre en parallèle avec toutes les analyses qu'il y a eu sur y a-t-il ou pas un retour du religieux depuis les années 90 en France, etc. Souvent, pour ça, on avait pris comme indicateur la pratique du ramadan, le nombre de prières. Mais c'est aussi intéressant de voir dans d'autres registres, donc là, typiquement, qu'il y a aussi une évolution par rapport à ça. Voilà. Alors concrètement, le mariage halal, comment ça s'organise aujourd'hui en France? Donc c'est quelque chose qui se passe avant, quand elle a lieu avant la cérémonie, civile. Alors selon les individus et leur rapport au religieux, ça ne va pas forcément avoir la même signification. Voilà. Alors, bon, en commun, c'est l'imam qui vient souvent à la maison. Il y a une petite fête en famille. Parfois, alors pour ceux qui ont un rapport peut-être un peu plus détaché par rapport au religieux, certaines filles disaient ah oui, bah, c'était l'occasion pour dire à mon mari que je refusais tout mariage polygame, mais c'était plus une façon de private, enfin c'était raconté sur le mode de la private joke, parce que bon, évidemment en France, la polygamie d'un point de vue du droit français est interdite. Donc elle, c'était une façon juste pour elle de jouer un peu avec ça. Alors ça, pour beaucoup d'individus, le pose finalement. Alors il y a deux possibilités. Soit il y a un mariage civil qui aura lieu après, soit il n'y a pas de mariage civil après. Donc dans tous les cas, c'est présenté comme une espèce de fiançailles où à partir du moment où c'est conclu, on va dire que s'il y a relation sexuelle, ça va être considéré comme légitime aux yeux de la famille et de l'entourage plus large. Quand il y a un mariage civil, il y a deux possibilités. Soit il intervient le lendemain, donc en général, dans ce cas-là, l'homme et la femme ne passent pas la nuit ensemble. Hein. Là, on reprend des normes de l'ancien registre. Ça, c'est une première possibilité. La deuxième possibilité, c'est que le mariage civil intervient beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard. Et dans ce cas-là, le mariage religieux halal est considéré comme une espèce de... Alors, je suis désolée pour l'équivalent, mais je n'ai pas trouvé mieux, de pax religieux, c'est-à-dire que on va pouvoir avoir des relations sexuelles, c'est considéré comme légitime par rapport à Dieu, par rapport à l'ensemble du contexte social dans lequel les individus évoluent, mais on va se donner un petit peu de temps pour voir si on est, entre guillemets, compatible dans le quotidien, et si oui, ça peut aboutir à un mariage civil. Bon, c'est pas encore une pratique hyper répandue, mais ça existe. Donc c'était pour attirer votre attention là-dessus. Et il y a un troisième cas où il n'y a pas de mariage civil ensuite. Et du coup, là, dans ce cas-là, c'est souvent les personnes qui sont dans ce cas-là, c'est souvent davantage des individus qui sont, que moi j'ai appelé born again muslims, qui sont revenus qui se sont reconvertis, si je puis dire, aux religieux, avec une sociabilité religieuse différente de celle des parents, mobilisant davantage les associations, avec un rapport à l'écrit beaucoup plus fort. Voilà, si vous voulez, je ne sais pas si je suis claire, mais je continue. Donc voilà un peu les différentes configurations. Alors maintenant, on peut se demander cette espèce de tout religieux, si derrière ce référent tout religieux, il y a finalement que des dynamiques toutes religieuses. Donc pour répondre à cette question, je vais voir un peu comment le conjoint a été choisi. Alors je tourne beaucoup de pages, non, qu'une seule. Donc, le choix du conjoint va montrer que la prégnance du culturel ne s'est pas effacée face à un tout religieux, même si le vocabulaire utilisé par les individus va se référer au registre religieux. Le religieux va être mobilisé, réinterprété, et les interdictions dans le choix du conjoint vont être étendues au-delà de ce qui est posé normalement par la norme religieuse. Par exemple, ce qui est posé habituellement, c'est qu'il y a une espèce d'asymétrie par rapport au choix du conjoint. C'est-à-dire qu'un homme musulman va pouvoir se marier avec une non-musulmane, voilà, mais une musulmane ne va pas pouvoir se marier avec un non-musulman. Merci. C'est la règle générale. Et en fait, moi, quand j'ai interrogé mes enquêtés, donc on a affaire là à des gens qui sont nés en France, qui ont entre 25 et, on va dire, 35 ans. Hein. Pour eux, cette asymétrie, ils la gommaient totalement. Et pour eux, le mariage idéal... ils sont pas tous mariés, hein, donc le mariage idéal, le conjoint idéal, c'était dans tous les cas un musulman. Donc il y avait une espèce, cette asymétrie qui est possible était gommée. Donc c'est ce qui était posé. Mais quand on prolonge la discussion, on se rend compte que il y a cette première posture, et puis ça peut être un peu plus compliqué également dans les représentations, mais aussi dans les faits. Parce que finalement, aussi en islam, normalement, un musulman est égal à un musulman, quelle que soit son appartenance sociale, son appartenance ethnique et son appartenance culturelle. Bah, même par rapport à cette règle, on va voir qu'il va y avoir des petits... enfin, ça va se gripper un peu. C'est-à-dire que on a souvent dit que pour les parents, l'idéal, c'était... que l'enfant se marie avec quelqu'un du même pays, voire du même village. Ça, c'était un peu la posture des parents quand ils étaient primo-migrants. Pour les enfants, on va se rendre compte qu'il y a quand même pas mal de phénomènes, sans qu'ils soient forcés par les parents, il y a la volonté un peu d'essayer de se conformer à cet idéal qui a été présenté par les parents. Donc là, je ne vais pas vous exposer tous les morceaux d'interview que j'avais sur ce point. Mais oui, enfin, je suis d'origine marocaine. Ma mère rêve que je sois avec un Marocain. J'avais même des choses un peu plus fortes, même en termes de... Enfin, structure de phrase. J'avais une fille. Alors là, on sort de l'échantillon maghrébin pour se tourner davantage vers l'échantillon d'origine malienne. Donc j'avais une jeune fille qui me disait que son père, mais elle aussi finalement maintenant, souhaitait qu'elle prolonge la race soninké à travers qu'il fallait qu'elle se... Et c'était assez intéressant finalement comme formulation, prolonger la race. Et c'était quelque chose qui revenait tout le temps en fait dans son... Dans son discours. Donc, on a ça d'un côté, mais en même temps, bon, on est toujours sur des espèces de souhaits qui sont un peu mis sur le même niveau, mais sans forcément que l'individu voit que ça peut être contradictoire. C'est ça qui est assez un petit peu déstabilisant. Parce que donc, il y a cet idéal de se marier avec un conjoint qui appartient plus ou moins à la même sphère culturelle, mais en même temps, en parallèle de ça, on constate qu'il y a eu un élargissement du marché matrimonial, entre guillemets. C'est-à-dire que peut-être que le souhait au départ, c'est ça, mais que finalement, au final, ce qui va l'emporter, c'est le fait que... Enfin, la sociabilité jeune en France, l'école, les centres d'intérêt, ça va au final peut-être être plus fort que ce souhait premier qu'on affiche comme idéal. Donc ça va être très important, mais malgré ça, il va y avoir encore des choses qui reviennent assez régulièrement. Là, c'était parmi les enquêtés d'origine maghrébine. Alors qu'on est toujours dans ce cadre, hein, donc de représentation, mariage halal, etc. Il y avait un point qui semblait faire consensus, c'est que ok, un musulman est égal à un musulman, mais il y a quand même un souci. Ben, j'aimerais bien me marier quand même avec quelqu'un du pays d'origine, mais même si je ne peux pas, il y a quand même un souci, c'est surtout ne pas se marier avec quelqu'un d'origine africaine, un noir. Galouche, quoi. Ça, c'était quelque chose qui revenait, mais c'était épidermique, tant de la part des filles que des garçons, et tant de la part de gens qui étaient revenus aux religieux, ceux que j'ai appelés les born again muslims. C'était plutôt, excusez-moi, là je m'avance trop, tant de la part des filles que des garçons. Voilà. Donc j'ai eu, je peux vous lire une citation, là je l'ai en face de moi. Donc une jeune étudiante de 25 ans, qui elle, oui, était revenue aux religieux, donc oui, voilà. Donc, en premier choix, qu'il soit arabe, pour faire plaisir à ma mère, mais un français, cela ne me dérangerait pas. Par rapport à une certaine attirance, je préfère les arabes, les noirs non. Ma mère me jetterait dehors, elle me dit « tu ramènes ce que tu veux, mais pas un noir ». Finalement, je pense que ce sera un Français ou un Marocain. Ma mère est d'accord pour un Français, parce que finalement, on est dans son pays. Ce qui inquiéterait ma mère, c'est qu'il soit tunisien ou algérien, par rapport aux enfants. Pour elle, c'est important qu'on soit du même pays. Elle était d'origine marocaine. Voilà. Donc, vous voyez, là, c'est très intéressant, cette citation, parce qu'il y a un peu tout ce que... Oula. Voilà, très intéressant, cette situation. Donc, je continue donc, mon propos. Ensuite, il y a une autre catégorie qui attire moins les suffrages, si je puis dire, c'est se marier avec, surtout quand on est une fille, se marier avec un blédard, surtout quand il est moins éduqué. Alors là, il y a énormément de discours, donc surtout des filles, mais aussi des garçons. Il y a beaucoup de discours sur qui viennent en fait d'histoires qu'on a entendues dans le quartier, qu'on a entendues dans la famille, que les blédards y viennent et qu'ils se marient pour les papiers. Une fois que les papiers sont là, la fille ou le garçon s'en va, donc abandonne les enfants. Il y a pas mal de discours comme ça. Et du coup, alors qu'il y a quelques années, ça avait pu être considéré comme quelque chose de positif, là, c'est un peu moins le cas. Et alors... Quand le blédard en question est moins éduqué que le ou la française, là, ça devient beaucoup plus compliqué, surtout pour les filles, parce que du coup, elles ont l'impression que finalement, tout le travail qu'elles font, elles, pour essayer d'avoir une espèce d'ascension sociale individuelle, va être freiné par ce mariage. C'est un peu un retour en arrière pour elles. Donc je finirai mon propos en disant que, à contrario, et même si c'est pas considéré comme l'idéal tant par les individus que par leur famille, toujours dans cette optique de, il y a aussi donc des jeux autour de l'ascension sociale, se marier entre guillemets avec un Français. Alors dans ce cas-là, dans le Français, c'est considéré comme la personne non immigrée. Et qui souvent est d'une classe sociale supérieure. Donc ça peut faire grincer des dents. Par exemple, j'avais une jeune fille qui s'était mariée donc avec un Français entre guillemets. Ça avait posé des problèmes dans le quartier. Elle s'était fait insulter et tout. Mais pour la famille, il y avait eu absolument aucun souci. Par contre, cette jeune fille, son frère qui était revenu au religieux, avait amené une sœur noire entre guillemets. À sa mère. Sa mère lui avait dit « Mon fils, jamais de ça chez nous. » Le fils avait invoqué Bilal, donc les référents religieux, tada, rien à faire, ça n'avait pas marché. Donc là, c'est intéressant parce que bien que les individus veuillent se placer dans un registre, le référent est entièrement religieux, on voit qu'il y a d'autres logiques qui sont liées à la culture, qui sont liées aussi à des logiques d'ascension sociale, qui vont un petit peu complexifier la donne. Et finalement, bien que le mot donc, se réfère à un registre religieux, la façon dont les individus vont s'en saisir, ça va brouiller un peu cette notion au départ très religieuse.
Merci.